bonsoir à tous. Depuis plus de 10 ans, elle sillonne la France pour témoigner de son drame et surtout véhiculer un message de paix. Latifa Ibn Ziaten est à Bressuire cette semaine. Les élus de l'Aglo de Bé ont également adopté une motion de soutien aux communes de Chiché et Amayou, dont des riverains sont victimes de nuisances olfactives dues à un centre d'enfouissement des déchets. Désengorger les salles d'attente des médecins généralistes, objectif de la téléconsultation pharmacie. À Thouars, leur nombre a été multiplié par 10 en 3 ans. Informer et sensibiliser sur la santé mentale, tout l'intérêt de l'opération En voiture Psimone, actuellement en Nord-de-Sèvre. Et puis, au lycée Saint-Joseph de Bressuire, le CAP ébénisterie va évoluer à la rentrée prochaine vers un CAP fabricant. Tous les détails dans ce journal.
La météo à l'issue de cette édition, le temps toujours aussi perturbé demain.
Une minute de silence observée ce mercredi en fin de matinée à la maison d'arrêt de Niort. Comme partout en France, les agents pénitentiaires ont rendu hommage à leurs deux collègues tués hier lors d'une attaque dans l'Eure alors qu'ils transportaient un détenu du tribunal à la prison. De plus, une opération prison morte a été engagée empêchant toute entrée ou sortie. Les personnels attendent des réponses fortes du gouvernement. Ils dénoncent le manque de moyens humains, la dangerosité du métier et réclament aussi la mise en place de visioconférences à distance pour limiter le transport des détenus.
Latifa Ibn Ziaten ou le combat d'une mère pour la jeunesse.
La mère d'Imad, la première victime du terroriste Mohamed Merah en 2012 à Toulouse, a créé dans la foulée l'association Imad pour la jeunesse et la paix pour entendre les jeunes des quartiers en difficulté, changer leur regard sur la société et aider les parents à les accompagner. Mohamed Merah a été, rappelons-le, l'auteur d'une série d'attentats à Toulouse et Montauban en tuant 7 personnes, dont 3 militaires. Et 3 enfants d'une école juive. Latifa Ibn Ziaten a l'habitude de raconter le drame qu'elle a vécu, l'assassinat de son fils, âgé de 30 ans. Et s'il y a un moment qui restera jamais gravé dans sa mémoire, ce sera sans conteste sa toute première conférence dans un collège, qui plus est à Toulouse.
Je ne pourrai jamais oublier tous ces jeunes qui avaient très peur, qui sont tristes, ce qui arrive à Toulouse, ce qui arrive à leurs camarades dans les écoles. Et ils n'étaient pas sûrs d'eux, ils avaient très peur, ils n'étaient pas assurés, il fallait quelqu'un qui vient pour les assurer. Je dis voilà, je suis là, ma gars, j'ai perdu mon fils, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous assurer. Il faut pas avoir peur, il faut être prudent, mais il faut pas avoir peur. Si vous avez peur, vous pouvez pas continuer. Et on a besoin de vous, vous êtes l'avenir, et baissez pas les bras.
Et dans le public, il y avait quelqu'un de particulier?
Oui, il y avait un cousin de Merah qui était là, c'est un jeune homme qui pleurait non-stop, et ça m'a attristé, et je suis allée vers lui, et c'est là où il m'a dit, je puis faire me présenter avant quelqu'un qui le dit à ma place. Et je suis le cousin de Merah.
Beaucoup de courage quand même pour ce jeune homme.
Et il a eu beaucoup de courage, c'est pour ça que je voulais le féliciter pour le courage qu'il avait, et de dire, faut pas t'en vouloir, tu es pour rien, mais il était parti. Il pouvait plus supporter le regard des autres. Et il m'a dit, je peux faire lui dire moi-même que quelqu'un qui le dit à ma place. Et j'ai dit, vous êtes courageux.
Depuis plus d'une décennie, Latifa Ibn Ziaten se rend dans les collèges pour un jour à Bressuire, où elle tenait une conférence hier soir auprès du grand public, avant de rencontrer ce mercredi et demain jeudi tous les élèves de seconde générale de l'établissement dans le cadre de leur cursus d'éducation morale et civique sous la coordination de Jérôme Decroix. Mais Latifa Ibn Ziaten n'hésite pas aussi à se confronter à la réalité de l'islamisme radical en se rendant également dans les prisons.
Je suis quelqu'un de très forte, je me baisse jamais les bras, j'en ai pas peur. Voilà, même qui sont là, même qui sont des terroristes qui étaient en face de moi, mais j'ai jamais eu peur.
Vous pensez que les prisons peuvent malheureusement fabriquer des terroristes?
Ah, dans les prisons, c'est la première école, hein, je le dis, je le répète, il n'y a pas de... Parce que vous savez, quand on est dans les cellules 3 ou 4 ensemble et qu'on ne sort pas et qu'ils sont dans leur bourrage de crainte, de haine, ça peut donner que du mal. Et c'est eux-mêmes qui témoignent et disent, la première école, c'est prison. L'école de terrorisme, ça se prend ici. Et quand on regarde bien, tous ces assassins, tous ces terroristes, c'est sur des prisons.
Humilité, gentillesse, retenue, disponibilité, c'est ce que nous retiendrons de cette rencontre hier soir avec Latifa Ibn Ziaten, à la maman d'Imad, la première victime du terroriste Mohamed Merah en 2012 à Toulouse. Elle interviendra de nouveau auprès d'élèves de seconde du lycée Saint-Joseph de Bressuire demain jeudi.
À l'instar des élus bressurais, la veille, le conseil communautaire majoritaire de l'agglo de Béziers a adopté hier soir une motion de soutien pour les communes d'Amaillou et de Chiché.
Des riverains de ces deux communes proches du centre d'enfouissement de déchets ménagers géré par la société Suez depuis 2007 sont en effet victimes depuis le mois de décembre dernier de nuisances olfactives avec des pics depuis février, rendant leur quotidien parfois très très difficile, comme le confirme le maire de Chiché, François-Marie.
Ça se traduit par du gaz d'hydrogène sulfureux, par de l'ammoniac, et c'est extrêmement pénalisant pour les gens qui habitent autour, et particulièrement en fonction des vents dans telle ou telle direction, le matin ou le soir particulièrement, c'est extrêmement difficile à vivre. Certains riverains ont connu ces derniers temps la nécessité absolue de quitter leur logement pour aller dormir ailleurs pendant quelques jours. Voilà, et ça n'est pas acceptable. C'est toujours le gain économique qui privilégie les choses, et le recouvrement du casier qui aurait dû être fait en octobre, novembre et décembre n'a pas été fait à ce moment-là, puisqu'évidemment, quand il y a beaucoup de pluie, c'est plus difficile à faire. Donc, il y a eu, je pense, un moment de latence et d'attente, et puis aujourd'hui, la situation leur a échappé, et la difficulté, c'est de pouvoir rattraper cette situation échappée qu'ils n'arrivent pas pour l'instant à maîtriser.
Tous demandent à Suez de pallier au plus vite à ces nuisances qui impactent très fortement plusieurs riverains de Chiché et Amaillou, proches de ce centre d'enfouissement de déchets ménagers. D'ailleurs, signalons-le, deux mises en demeure de la préfecture en ce sens sont en cours. Affaire à suivre.
À Thouars, la téléconsultation en pharmacie a été multipliée par 10 en 3 ans.
Loin d'être miraculeuse, la téléconsultation médicale offre toutefois une solution de dépannage bien utile pour les patients dépourvus de solutions immédiates. En 10-15 minutes, chacun peut trouver un médecin vidéo. Le système fonctionne à la maison, mais aussi dans une bonne trentaine de pharmacies des Deux-Sèvres où ces professionnels apportent leur aide aux patients. Il est vrai que la période Covid a permis de faire découvrir le système au public qui a pris goût par la suite. Exemple à Thouars donc, où la pharmacie des Capucins a été l'une des premières à proposer ce service d'auscultation à distance. 3 ans après, Alain Dumont fait le point sur la forte progression de la pratique. Il est au micro colline de notre correspondant Thouars, c'est Dominique Hérault.
La demande croît. Tout au début, on était plutôt sur la base de 12 à 20 consultations par an. Et maintenant, c'est par mois. Ça tient au fait que les gens savent mieux comment s'en servir. Et aussi, ça tient au fait que des hôpitaux et des cabinets médicaux envoient des clients vers la téléconsultation pour effectuer un tri, en fait. C'est-à-dire que plutôt que de consacrer du temps à des petits bobos, ils préfèrent que ce soit fait par la téléconsultation. Et la plupart du temps, c'est vrai que c'est des petites choses qui ne nécessitent pas forcément d'être palpé, d'être examiné par son médecin traitant habituel.
La mission de désengorger les salles d'attente des médecins généralistes est donc assurée, mais ces consultations vidéo en pharmacie, par un accueil faible en volume, ne peuvent faire concurrence aux cabinets médicaux installés, comme nous le confirme Alain Dumont.
Non, il n'y a pas de concurrence parce qu'il n'est pas possible d'avoir certains arrêts médicaux, arrêts de travail ou autres par une téléconsultation. Ensuite, nous avons des cas un petit peu mystérieux où même avec des appareils connectés, le médecin qui est à l'autre bout du fil ne va pas avoir assez d'informations pour faire un diagnostic. Dans ce cas-là, il va renvoyer vers le médecin traitant ou vers l'hôpital ou vers le SAMU, enfin bref. Ce qui fait que la téléconsultation sert plutôt à décharger les cabinets médicaux des petits bobos, des petites choses qui nécessitent quand même par précaution d'être vues par un médecin, mais qui ne nécessitent pas que le médecin traitant trouve un trou dans son planning pour caser quelqu'un entre deux autres clients. Là où la concurrence ne s'exerce pas, c'est que pour les traitements chroniques, la téléconsultation ne peut servir qu'une fois. C'est-à-dire pour un dépannage, on peut effectivement user de la téléconsultation. Maintenant, quelqu'un qui serait une diabétique et qui voudrait être suivi uniquement par téléconsultation, ça ne marcherait pas, il ne peut pas.
Un dépannage très pratique et plutôt rapide. Le dispositif coûte entre 200 et 300 euros par mois aux pharmaciens. La caisse primaire d'assurance maladie assure 60% du coût. L'idée des consultations ophtalmologiques fait actuellement son chemin. De son côté, pour les patients orphelins de médecins généralistes, l'hôpital Nord de Sèvres propose un accueil en chair et en os dans les centres publics de santé. À Thouars, Parthenay et Fellabès, sur rendez-vous. Reportage de Dominique Hérault.
En voiture, Simone fait le tour des Deux-Sèvres pour la 3e fois.
Informer et sensibiliser sur la santé mentale, c'est tout l'objectif de ce petit camion blanc qui sillonne notre département cette semaine sous l'égide de l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques, associée à différents partenaires sensibilisés à ces pathologies qui touchent de près ou de loin une personne sur quatre. Précision avec Philippe Brilouet, bénévole à l'UNAFAM des Deux-Sèvres, et Anaïs Landreau-Deloume, éducatrice spécialisée à l'hôpital de Niort. Tous deux sont au micro-colline de Lucas Marolo.
Une personne sur quatre, c'est l'OMS qui le dit, l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors, c'est pas anodin. C'est-à-dire que dans les familles, ben, plus ou moins, on peut être touché au cours de sa vie par des troubles psychiques. Alors, plus on détectera précocement, plus on en parlera le plus tôt possible, plus on favorisera l'entrée dans le soin le plus tôt possible, quoi.
Ben, la santé mentale, ça concerne tout le monde. On a tous des hauts et des bas. Et c'est là où, quand il y a souffrance dans la durée, quand ça fait un impact dans la vie quotidienne, qu'on parle de troubles psychiques. Et donc, plus on ose parler de nos fragilités, plus on va solliciter de l'aide. Et donc là, l'idée aussi de faire un projet collectif avec plusieurs partenaires, c'est aussi de permettre au grand public de connaître toutes les ressources qui sont disponibles au sein du territoire.
Après Bressuire hier, l'opération de sensibilisation à ces maladies psychiques en voiture Psimone a été au lycée Val-de-Loing ce matin, chez Emmaüs, toujours à Mauléon cet après-midi. Vous pourrez retrouver cette action à la maison familiale rurale de Saint-Loup-la-Mairie demain jeudi, à Thouars vendredi, sur le marché le matin et dans le quartier des Capucins dans l'après-midi. La suite du parcours se déroulera la semaine prochaine, mardi à Coulonges-sur-Lautise et Sensé, mercredi à Niort, jeudi à Sauzé-Vaucé et Beaucé-Vitré, pour une clôture au marché de Mel le vendredi 24 mai. Tout autre chose maintenant. Au lycée Saint-Joseph de Bressuire, le CAP ébénisterie va évoluer à la rentrée prochaine vers un CAP fabricant, comme nous l'explique Fred Jonot, professeur de menuiserie dans cet établissement bressurais.
Par rapport au bassin d'emploi qu'il y a dans le nord de Sèvres, beaucoup d'entreprises sont en lien directement avec de la menuiserie. On a très peu d'entreprises qui font travailler des ébénistes. Donc on a choisi l'option de transformer notre CAP ébéniste en CAP fabricant pour répondre aux besoins du secteur.
Donc là, on a un jeune qui sort de 3e, qui rentre en CAP, qui part pour au moins 2 ans.
Au moins 2 ans, puisque étant donné qu'à Saint-Jo, on a le bac pro technicien menuisier agenceur, il pourra prétendre à ce bac pro après ses 2 années de CAP, et au lieu de passer ce bac pro en 3 ans, il pourra le faire qu'en 2 ans. Donc ça lui fera une formation de diplômante, un CAP plus un bac pro en 4 ans au lieu de 5.
Un CAP fabricant qui comprend de fréquentes périodes de stage. Les entreprises devraient sans doute jouer le jeu, car si cette formation se transforme, c'est donc avant tout pour répondre aux besoins des entreprises locales, parfois très spécifiques, comme ces entreprises de Saint-Aubin-du-Plain, qui compte une 12aine de salariés. Elle est spécialisée dans la menuiserie scénique. Christine Droual, associée gérante de VTI.
C'est l'univers des planchers de scène de théâtre. On intervient dans les salles de spectacle en France et à l'étranger. Et on refait tout ce qui est plancher scénique et habillage acoustique dans les salles.
Et alors, problématique, j'imagine, aussi du recrutement?
Problématique du recrutement, parce qu'il nous faut à la fois du savoir-faire à l'atelier pour être capable de réagir comme un menuisier de métier, et en même temps comme pour être opérateur sur des machines à commande numérique, par exemple. Donc c'est une double casquette. Et puis il y a le recrutement aussi sur les chantiers. Et les chantiers sont en déplacement, donc il faut que les gens acceptent de partir à la semaine. En général, c'est des semaines de 4 jours. Mais il faut trouver des profils particuliers qui sachent aussi s'adapter à la vie de chantier.
Les plus sédentaires trouveront aussi chaussures à leurs pieds. Plus localement, chez Extébois à Bressuire, par exemple, on recrute aussi en permanence. Et ce type de formation et la bienvenue. Arnaud Grégoire est le dirigeant de l'entreprise.
On est quand même énormément d'employeurs de ce type de profil pour peu d'élèves formés, et donc on se retrouve avec un nombre d'étudiants qui est assez insuffisant pour alimenter toutes les entreprises du coin. Bah nous, les niveaux qu'on recherche, c'est bac pro, licence plutôt axée productique bois, ou licence dessin industriel, enfin voilà. Les CAP, c'est un bon démarrage pour que les enfants découvrent le métier. Pour nous, c'est à peine suffisant si on s'arrête au CAP. Il faut continuer un peu plus. Il y a quand même des besoins aujourd'hui dans les entreprises de lecture de plans, de pilotage de machines qui nécessitent quand même une formation un peu supérieure au CAP. Mais c'est un très bon début.
Voilà, reportage complet signé Vincent Nourry. Un petit mot de sport pour vous indiquer qu'en handball, Celles-sur-Belle, troisième du championnat de D2 féminine, reçoit ce soir Pessac, seconde pour le dernier match de la saison à domicile, qu'on envoie tout à l'heure à 20h30. Et puis, le 2 juin prochain, Bressuire accueillera une étape du relais de la femme olympique organisée par le département des Deux-Sèvres, en complément des informations diffusées sur notre antenne sur le sujet, mais aussi via les différents supports de la ville. La municipalité bressuiraise organisera une réunion ouverte à tous mardi prochain, le 21 mai à 19h à la salle des congrès, afin de présenter les temps forts de cette journée du 2 juin, ainsi que l'organisation pratique liée notamment au stationnement et à la circulation.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Avec Patrice, un ciel chargé de nuages, plus ou moins d'averses, quelques éclaircies.
C'était donc le programme de notre après-midi, des éclaircies qui devraient prendre le dessus en cette fin de journée. Le risque pluvieux devrait disparaître, mais demain jeudi, nous nous retrouverons à nouveau sous un ciel encombré de nuages. Et comme aujourd'hui, quelques éclaircies et quelques averses ici ou là. Toujours du vent demain, notamment dans l'après-midi, avec des rafales de l'ordre de 40 à 50 km par heure. Du côté des températures, on nous annonce 9 degrés au lever du jour demain pour des maxis qui seront comprises entre 15 et 17.
Voilà pour toute l'actu après chez vous ce mercredi. Merci Patrice. Le retour, c'est demain matin.
À 7h avec Fabien Gazot. Très belle soirée avec Colline La Radio. Merci de votre fidélité. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain à 18h.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.